Europe 1. C'est en direct de chez vous. On vous retrouve, Patrick Cohen, pour cette arrivée cette semaine.
C'est la faim qui va nous tuer, pas le coronavirus. Cri de détresse entendu cette semaine à plusieurs coins de la planète lors de manifestations, émeutes ou pillages de populations en manque de nourriture en Inde, en Afrique, en Amérique latine. L'alerte a aussi été lancée par le directeur du PAM, le Programme alimentaire mondial qui dépend des Nations Unies. Deux fois plus de personnes risquent de mourir de famine. Cette année, 265 millions d'individus menacés. Bonjour Bruno Parmentier.
Bonjour.
D'abord, un rappel toujours utile. La famine dans le monde, c'est une réalité. Indépendamment de la crise actuelle, elle n'a pas été éradiquée. Hein.
Oui, il faut se rendre compte que des gens qui ont faim, leur nombre est stable depuis plus d'un siècle. Il y a toujours à peu près 800 millions de gens qui ont faim, quel que soit le nombre d'habitants. Alors ça, c'est les gens qui sont mal nourris, pas assez. À l'intérieur de ces 800 millions, il y a les gens qui sont vraiment menacés de mort. Il faut se rendre compte que la faim tue beaucoup plus que la guerre en ce moment sur Terre. Hein. La faim tue à peu près 21 000 personnes par jour. La faim tue un enfant de moins de 5 ans toutes les 10 secondes. Donc ce nombre de gens qui sont vraiment en état de faim critique, dans les deux dernières années, il a augmenté. Il est passé de 110 millions à 135. Et là, maintenant, ben, les Nations Unies nous disent, avec le Covid, il peut doubler. Ça peut être 250 millions. On a vu, par exemple, des choses similaires en 2007. Lorsqu'on a manqué vraiment de céréales sur Terre, le prix des céréales a triplé. Les pays exportateurs ont commencé à faire un embargo sur les exportations. Il y a eu des émeutes de la faim dans 36 pays et le nombre de gens qui ont eu faim a augmenté de 80 millions. Donc c'est possible.
Qu'est-ce qui aggrave la situation aujourd'hui? Qu'est-ce qui permet au directeur du PAM d'alerter sur une pandémie de la faim?
Alors d'abord, il y a quand même une bonne nouvelle. La situation de stock de céréales est plutôt bonne. Les quatre dernières années, on a fait de bonnes récoltes de céréales sur Terre. On a récolté plus que ce qu'on a consommé. Donc la situation est nettement meilleure que celle qu'on avait en 2007 ou bien en 2010, quand les mêmes problèmes ont provoqué les révolutions arabes, parce que le prix du blé avait doublé. Et Moubarak a sauté, voilà. Et les autres. Et Ben Ali. Et donc là, les stocks sont plutôt bons et les prévisions de récolte 2020 sont plutôt bonnes. Donc normalement, si personne ne perd son sang-froid, il y a de quoi nourrir l'humanité. Je vous parle d'abord des céréales parce que c'est quand même l'essentiel de la nourriture. Bien et sûr. En particulier l'essentiel de la nourriture pour les gens pauvres. Les gens vraiment pauvres, ils ne mangent qu'une seule chose. Tous les jours la même chose, ils ne mangent que du riz ou que du manioc ou que du pain. Et donc, le cours d'autres matières premières les importe beaucoup moins. Or, les pays qui sont capables de produire plus de céréales qu'ils n'en mangent sont très peu nombreux sur Terre. Il y en a à peine une vingtaine. La grande majorité des pays du monde produit moins que ce qu'ils mangent. Alors ça commence par exemple par les pays qui n'ont pas assez de terre et trop de population. Bon, le Bangladesh, 1221 habitants au mètre carré. En France, il y en a 119. On imagine que c'est beaucoup plus difficile de nourrir les Bengalis. Ben, ils importent beaucoup de riz. Bon, l'Égypte. L'Égypte, apparemment, c'est un grand pays, mais c'est un désert, point final. C'est un désert traversé par une rivière. Il y a 100 millions d'habitants en Égypte. On ne peut pas nourrir 100 millions d'habitants alors qu'il n'y a que 4% des terres cultivables. L'Égypte, chaque année, c'est le premier ou le deuxième importateur mondial de blé. Si nous bloquons notre blé, nous qui pouvons en produire plus, ben les Égyptiens auront faim. Mais alors justement, plus près de chez nous, allez.
Justement, Bruno, avant de voir l'Algérie, parce que c'est intéressant. Mais qu'est-ce qui pousse justement les pays exportateurs à restreindre leur commerce? Qu'est-ce qui pousse on a vu que la Russie avait décidé de plutôt garder son blé. C'est la peur de manquer.
Alors, soit ils perdent leur sang-froid. Soit ils ont envie de spéculer. Ne négligeons pas ça non plus. Parce qu'effectivement, si le commerce se bloque, les prix vont monter. Donc ça intéresse les gens qui... Mais pour le moment, j'ai l'impression que c'est plutôt le sang-froid. Et
Ouais.
donc, c'est pour ça qu'il y a une déclaration solennelle, mais c'est très rare de voir ça, commune de toutes les organisations des Nations Unies, l'OMS, la FAO pour l'agriculture, l'OMC pour le commerce, le PAM, le Programme alimentaire mondial, qui disent surtout, surtout, continuer à exporter. En fait, la nourriture d'une bonne partie de l'humanité pauvre dépend du sang-froid et de la volonté de vendre d'une vingtaine de pays. À peine une vingtaine, hein. Pour le blé, bah, c'est évidemment l'Union européenne, à commencer par la France. C'est la Russie, l'Ukraine, le Kazakhstan. Et puis, c'est les États-Unis et le Canada. Pour le maïs, bah, c'est les États-Unis, le Brésil et l'Argentine. Pour le riz, bah, c'est le Pakistan, le Vietnam, la Thaïlande. Donc, en fait, il faut absolument que ces pays continuent à exporter. Maintenant, ça ne suffit pas.
Oui.
On peut amener du riz ou du blé dans les ports. Mais une fois que c'est déchargé à Dakar, ça n'est pas encore dans le dernier petit village. Parce qu'il faut se rendre compte que la faim, on a l'impression que c'est un phénomène urbain, parce que quand on voit des émeutes de la faim, c'est dans les capitales. Mais la faim, c'est d'abord un phénomène silencieux des petits villages isolés du tiers-monde. Et donc, il peut se passer énormément de choses entre le bateau qui arrive. Alors déjà, il faut qu'il arrive, mais ensuite, ben, il faut qu'il soit déchargé, il faut des camions, et puis, ben, chaque fois, il y a des gens qui essayent de spéculer. Donc, au dernier village du Burkina Faso, c'est très compliqué d'approvisionner. Et d'autant plus que là, il y a cette nouveauté absolue, on confine. Alors, vous imaginez bien que dans les grands bidonvilles des grandes villes du monde, quand on est confiné avec des gens qui n'ont aucune réserve de nourriture et aucune réserve d'argent, qui doivent sortir jour après jour pour travailler dans du travail informel pour gagner quelques pesos, quelques dollars, quelques francs en CFA, ben, ils n'y arriveront plus. Et donc là, ça va aller très très vite. Parce que contrairement aux Français, il n'y a pas de réserve dans leur petite maison.
Bien
Donc,
sûr.
c'est vrai qu'il y a un vrai risque qu'il y ait plus de gens qui meurent de faim sur Terre que de gens qui meurent du coronavirus.
Bruno Parmentier, vous restez avec nous, on va prolonger sur la situation mondiale dans un instant, et puis je voudrais qu'on parle de la France, pas de pénurie alimentaire, mais des récoltes menacées, on en parle tout de suite.
Europe 1. Jusqu'à 10h, vous écoutez C'est arrivé cette semaine avec Patrick Cohen sur Europe 1.
Avec l'ingénieur et économiste Bruno Parmentier, spécialiste de l'alimentation. Bruno Parmentier, ce que vous nous disiez, le tableau que vous nous dressiez il y a un instant, est clair d'un autre jour. Les grands débats en cours sur la mondialisation et ses méfaits. Sans le commerce agricole mondial, des centaines de millions de gens ne pourraient pas se nourrir.
Absolument. Mais déjà, en Europe, je veux dire, il faut se rendre compte que du point de vue de l'alimentation, notre pays, c'est pas la France, notre pays, c'est l'Europe. Nous sommes 28 pays qui avons fait une organisation pour pouvoir se nourrir. Mais dans ces 28 pays, il y a des pays qui produisent plus que ce qu'ils mangent, mais il y a beaucoup de pays qui produisent moins que ce qu'ils mangent. Je ne sais pas si tous les Anglais Brexiteurs ont bien compris que les pays anglais sont absolument incapables de nourrir complètement les Anglais. Donc nous, on a une organisation qui fait que ça marche. Il y a des pays qui produisent plus et qui nourrissent les autres. Et tout ça fonctionne parce que les camions continuent à circuler. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas
Ouais.
des petits problèmes. Alors, il y en a, évidemment, des petits problèmes. Alors, d'abord, en France, on sera parmi les moins menacés parce qu'on est des grands producteurs. On est surtout des grands producteurs de la nourriture essentielle. C'est-à-dire, on produit 2 fois plus de blé que ce qu'on mange. On produit plus de pommes de terre que ce qu'on mange. On produit plus d'œufs que ce qu'on mange, etc. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de problème. Donc, on a eu une impression qui manquait des paquets de farine dans les supermarchés parce que tous les gens se sont précipités. Mais attendez, on manque absolument pas de farine en France. On manque de paquets de farine de 1 kilo. C'était un problème d'emballage. Parce que vous imaginez bien que les industriels et les boulangers, ils n'achètent pas la farine par paquet de 1 kilo. Donc il a fallu emballer un peu plus de farine par paquet de 1 kilo. C'est pareil pour les œufs. On a cru qu'il manquait d'œufs, mais pas du tout. Pas du tout. On produit et on mange plus de 40 millions d'œufs par jour dans ce pays. On manquait de boîtes d'œufs de 6. Parce qu'évidemment, les restaurants qui ont fermé, ils n'achetaient pas les œufs par boîte de 6. Donc ça, c'est très ponctuel. Alors, ce qui va manquer, c'est les fruits et légumes.
Alors enfin, oui, surtout les fruits. C'est ça. Parce que, oui, pas de rupture d'approvisionnement, mais rupture de main d'œuvre, c'est ça. Tout ce qui risque de ne pas être cueilli.
Les fruits, contrairement aux légumes et surtout contrairement aux céréales, ils se récoltent à la main parce qu'il faut regarder un par un si le fruit est mûr. Or, ceux qui ont des jardins potagers se rendent pas compte parce que ils font tout. Ils font la salade et puis ils font la cerise et puis ils font la pomme de terre. Mais c'est pas du tout comme ça que ça se passe dans la réalité. Quand je fais du melon, j'ai 200 hectares de melon. Quand je fais de la fraise, j'ai 20 hectares de fraises. Donc il faut des centaines de personnes sur chaque exploitation dans une période très courte pour pouvoir récolter. En fait, nous employons 280 000 personnes pour récolter nos fruits. Nos fruits et quelques légumes comme les asperges. Bon, c'est un travail mal payé et c'est un travail très pénible. Moyennant quoi, 80% de ces 280 000 salariés agricoles sont des immigrés. Ils viennent du Maroc, ils viennent du Sénégal, ils viennent de Roumanie, ils viennent de Pologne, etc. Ben, ça, pour le coup, les frontières sont fermées, ils sont plus là. Donc, on a du mal à récolter nos asperges et nos fraises, mais ce sera pareil pour les pêches, pour les abricots, ce sera pareil pour les cerises. Donc, si je prends une comparaison un peu hasardeuse, on pourra toujours faire des gâteaux, puisqu'on aura toujours de la farine, on aura toujours du lait, on aura toujours des œufs, il manquera la cerise sur le gâteau. Mais effectivement, pour les producteurs de cerises, c'est absolument dramatique. Oui. Parce que les cerises vont pourrir. Et puis, il y a un autre problème qui est les marges. Il y a déjà à peu près 5 millions de personnes en année normale qui fréquentent les systèmes d'aide alimentaire. Les restaurants du cœur, les banques alimentaires, etc. Bon, ce nombre est en train de doubler. Or, l'approvisionnement de ces banques alimentaires est remise en question. Parce que pour une bonne part, cet approvisionnement, on va dire de la charité alimentaire, ça vient du recyclage de notre gâchis. On gâche énormément. Hein, on gâche à peu près 200 kilos par personne et par an. Et donc, ben, on va chercher à la sortie des supermarchés, à la sortie des restaurants, à la sortie des grossistes, etc., ce qui n'a pas été vendu, et c'est ça qu'on recycle. Or, comme tous les restaurants sont fermés, il n'y a plus d'invendu dans les restaurants. Donc, on est devant un problème qu'il y a de plus en plus de gens qui ont besoin d'aide alimentaire parce que, ben, par exemple, leurs enfants ne mangent plus à la cantine où ils mangeaient quasiment gratis. Ben, et dans le même temps, eh ben, ils sont pas chez un chômage technique, on leur a baissé de 14% ou de 15% leur revenus, ou bien ils avaient des revenus informels, comme on dit. Donc, il y a de plus en plus de gens qui ont besoin d'aide alimentaire, et les circuits traditionnels d'aide alimentaire n'arrivent pas à fournir. Et donc, bah, du coup, il faut faire autrement, il faut aller chercher directement les produits à la campagne, à condition qu'ils puissent être récoltés. Donc, vous voyez, bah, il commence à y avoir une organisation, déjà aux États-Unis, mais ça y est, en France, ça commence. On commence à donner quelques millions aux associations d'aide alimentaire pour qu'ils puissent aller acheter directement chez le producteur les produits qu'ils vont donner.
Et donc, c'est les restaurants toujours fermés, justement, qu'est-ce que ça change dans la filière alimentaire? Ça change beaucoup de choses, beaucoup.
Ah, ben oui. Beaucoup de gens qui déjeunent dans les restaurants à midi. Il y a à peu près 20 millions de Français qui déjeunent au restaurant ou à la cantine, plus 10 millions de soirs. Ça fait 30 millions de repas par jour. Pour ces 30 millions de repas, il y avait quoi? 10 000 acheteurs qui chacun achetait pour 2, 3, 5 000 personnes. Alors, ben, on mange pareil, si j'ose dire. Enfin, pas forcément pareil pour les gens qui ont du mal à boucler les fins de mois. Mais les acheteurs achètent pour 2, 3 ou 5 personnes, alors qu'avant, ils achetaient pour 10 000 personnes. Donc, c'est des circuits commerciaux qui ont plus rien à voir et qui ont beaucoup de mal à se réorganiser. Donc, sur un fond global, qu'on ne risque pas de manquer de pain et de manquer de pommes de terre, la nourriture essentielle, il y a effectivement le diable est dans les détails. Comment arriver à réorganiser provisoirement des énormes circuits de distribution? Et quand je dis énorme, c'est énorme. Parce que bah, tout le monde dit, bah, y a qu'à aller faire des circuits courts. Je crois que beaucoup de Français n'ont pas compris la masse que ça représente. On mange à peu près un peu plus d'un kilo par jour. On introduit à peu près une tonne par an dans sa bouche, hein, 600 kilos de liquide, 400 kilos de solide. Un peu plus d'un kilo par jour. Avec le gâchis, c'est 1,5 kg. Il y a 12 millions de Parisiens. Ben, ça veut dire qu'il faut amener, tous les jours que Dieu fait, faut amener 15 à 20 000 tonnes de nourriture dans la région parisienne. Ça n'est pas uniquement avec des petits poulaillers, fort sympathiques au demeurant, qu'on arrivera à amener 8 millions d'œufs par jour à Paris. Ça n'est pas avec des AMAP et des jardins potagers près de Paris qu'on va vraiment nourrir les Parisiens. Donc, c'est parfait de revenir vers des circuits plus courts, mais la réalité de la nourriture d'un peuple, et notamment des grandes agglomérations, c'est d'abord une organisation vraiment industrielle.
Et merci.
C'est vrai que si jamais on est obligé de fermer Rungis comme on a fermé le porte-avions Charles de Gaulle ou bien l'aéroport d'Orly, ben on va être très mal. Donc on a absolument besoin de cette organisation industrielle.
Merci Bruno Parmentier de nous avoir si bien instruit sur les fondamentaux de notre alimentation. Vous avez un site et une chaîne YouTube, Nourrir Manger. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres, le dernier Faim Zéro, En finir avec la faim dans le monde aux éditions La Découverte. Merci à vous.